Ticketmaster. Ah, plus il y a de fans qui veulent voir Beyoncé ou Taylor Swift, à un moment donné, plus les prix grimpent automatiquement. Bah oui, c'est l'arnaque du siècle, en musique.
Bonjour à toutes et à tous, cette fois ça y est, nous y sommes. Dans 5 jours, Bob Sinclair sera assis face à moi pour clore la saison du Gai Savoir et ouvrir celle du Joyeux Spritz. Alors oui, c'est vrai, ce week-end, certains ont déjà pris un peu d'avance, un coup d'avance même concernant Manon, que vous avez peut-être croisé en mode karaoké sauvage dans les rues de Paris lors de la fête de la musique aux côtés de Pierre Maverick Courade, notre rédacteur en chef adjoint et expert aéronautique, on l'a découvert ce midi au déjeuner. 5 émissions pour une dernière ligne droite et que je vous annonce festive et axée sur des thèmes qui intéressent les futurs vacanciers que nous sommes tous, juilletistes ou haussiens, voire, comme nous, Fiefé Vénard, les deux. Et on va commencer aujourd'hui par ce qui devient un plaisir rare, uniquement disponible l'été grâce aux nombreux festivals de plein air, assister à un concert sans avoir besoin de préalablement vendre un rein sur le Darknet. Oui, en 2025, acheter une place de concert, pas trop cher, relève du miracle. En cause, bien sûr, la cupidité des artistes. Rappelons ici que via sa société Lui Entertainment Worldwide, Paris, Alençon, Briouze, Quentin facture son pack Magic Bachelet Revival 500 euros hors taxes.
Oh, ce temps-là, c'était Paris.
Alors évidemment, ça apporte une touche premium indéniable à votre mariage, mais c'est quand même cher payé. Et encore, Quentin est moins gourmand que les frères Gallagher, dont les places de concert sont encore plus onéreuses, la faute à cette invention démoniaque. Cette ruse de Belzébuth, comme Cyril l'appelle, encore dégoûté d'avoir hypothéqué l'avenir de ses gosses pour assister au concert de Beyoncé, la tarification dynamique. Depuis quelques années, vous l'avez certainement remarqué, le prix des places fluctue en fonction de l'offre et de la demande en temps réel. Sorte de rêve de Dominique Seux devenu réalité. Et quand la demande est forte, le prix ne semble plus connaître de limite. Alors, comment déjouer les pièges de la tarification dynamique? Comment fonctionne cette tarification? Ticketmaster est-il le diable? Cyril a-t-il vraiment été obligé de vendre son appartement en viager pour pouvoir se la péter hier au concert de Beyoncé? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Aurélien Binder, bonjour.
Mais bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes président de Fimalac Entertainment, vice-président du pôle musique et variété du syndicat Écoscène. Il va falloir déjà nous expliquer ça. C'est quoi le syndicat Écoscène?
C'est le premier syndicat des producteurs, festivals, diffuseurs, salles de spectacle privées de France.
Vous êtes au cœur du réacteur.
Un peu.
Aurélien Pinder, vous allez nous expliquer déjà ce qu'on appelle la tarification dynamique et aussi, on va parler de la place de Ticketmaster dans l'industrie du divertissement. Juste le temps de vous présenter deux journalistes de moins en moins dynamiques, eux. La langueur estivale qui s'est abattue sur la France en général et sur l'open space de Zoom Zoom Zen en particulier. Notre open space ayant cette particularité unique d'avoir une clim qui fonctionne en hiver mais pas en été. Il tourne au ralenti. Le peu d'activité cérébrale qui leur reste étant consacrée à la thermorégulation. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
On vous avait même vu en Marseille aujourd'hui dans l'Open Space, Quentin. Des images douloureuses pour tout le monde. Heureusement,
c'est fou, pas, c'est ça vous allait très bien, Quentin.
C'est faux, ouais, c'est faux.
C'est gentil.
Allez, c'est un petit compliment.
Oui, ils font bloc en fin de saison.
Évidemment.
Toujours là pour le soutenir.
Quentin, ces temps de canicule, ce n'est plus un micro-trottoir que vous effectuez chaque matin, c'est une épreuve de Koh-Lanta. Heureusement, vos qualités naturelles, la focuterie et la duplicité, qui vous permettraient d'ailleurs de remporter Koh-Lanta facilement, vous aident à accomplir votre mission, arrêter des passants qui n'ont qu'une hâte, rejoindre un espace climatisé.
J'ai d'ailleurs monté un stand équipé d'un brumisateur et de glace vanille fraise qui fonctionne plutôt bien, ça attire le chaland et puis ça me permet de faire un peu de business là-dessus.
Je me suis rendu
à Montmartre, Mathieu, pour parler ticket, pour parler master, pour parler ticket master. Oh, oh. Que disent les fans de cette plateforme? Vos réponses avant 16h30.
Ça, c'est l'un des lancements les plus modernes qu'on ait eu.
Ça, c'est un début de semaine en fanfare.
Ah ouais,
à vos côtés, Aurélien, oui, dans quelques mois, vous vous souviendrez de ce visage angélique, ces grands yeux bleus rieurs qui pétillaient de vie, de curiosité et d'espoir dans l'avenir. Et vous vous direz, nom de Dieu, mais c'est la gamine qui s'avait kidnappée au Mexique. Celle dont la photo est placardée en 4x3 sur l'hôtel de ville avec ce message, liberté pour la Marianoche, liberté per la Marianoche. Oui Aurélien, malgré nos mises en garde répétées, Manon a décidé de maintenir son projet fou de road trip au Mexique. Il ne nous reste plus qu'à prier le Seigneur et découvrir Manon, non pas la personne, mais l'application du jour.
Non mais en fait, je crois que je vais faire genre que j'ai été kidnappée pour me prendre encore 2 semaines de vacances. C'est peut-être ça,
Vous serez néanmoins remplacé.
Oui, voilà, on vous remplacera,
vous parle d'une application qui nous vient d'Angleterre et elle prend totalement le contre-pied de Ticketmaster. Pas de prix gonflé, de reventes illégales et de conditions un peu floues.
Vers 16h30, le Zoom Zoom Test nous entraînera à la découverte des concerts les plus fous de l'histoire. De celui où j'avais serré la main à Michael Jackson à Moscou en 95, à cette inoubliable soirée au festival Les Papillons de Nuit de Saint-Laurent-de-Cuve où Quentin s'était jeté dans la fosse sur ses fans. spoiler, spoiler, il avait été moins bien réceptionné que Michael à Moscou. Juste avant 17h.
C'est faux. J'ai slamé une fois avec une guitare, ça s'est très bien passé.
Le pauvre.
Juste avant 17h, celle qui manie la terrification dynamique à merveille pour remplir ses zéniths, Marine Leonardi, la mère la plus drôle et bientôt la plus riche de France, nous rejoindra. Après 17h, c'est la 7e passion de Cyril après la gastronomie, le gras, le sucré, le salé, l'umami et les chips, le sport. On parlera foot féminin avec Nathalie Yanetta et Grégoire Margoton à l'occasion de l'Euro féminin qui démarre la semaine prochaine. Mais d'abord, restons sur cette tarification dynamique qui fait beaucoup parler. Pourquoi on fait tout de suite un lien, Aurélien Bader, entre tarification dynamique et Ticketmaster ? C'est vraiment les rois de la tarification dynamique ?
Non, ce ne sont pas les rois de la tarification dynamique, c'est simplement les seuls qui ont fait... Enfin, les seuls. C'est en fait la tarification dynamique qui a été pratiquée par Ticketmaster, et notamment sur le concert d'Oasis, qui était un concert explosif médiatiquement. Donc on a ciblé Ticketmaster, mais la pratique de la tarification dynamique, elle est...
Tout le monde
là.
Oui, ça concerne tout le monde aujourd'hui. Lui, dans le temps, il allait voir Eddie Mitchell et les Chaussettes Noires à l'Élysée-Montmartre pour seulement 5 francs. Ancien. Forcément, quand il a dû expliquer à ses enfants qu'il ne ferait pas d'études supérieures parce que papa avait claqué toutes les économies de la famille pour un concert de U2 à Las Vegas, c'est assez mal passé, surtout auprès de Madame La Carrière, qui, pour seul commentaire, s'est fendue d'un... Cyril, les temps... on a eu une poêle. Vous avez carrément pris une poêle dans la gueule.
C'est peut-être mes nouvelles poêles.
Ah oui, c'est votre nouvelle poêle. Elle est efficace à tout point de vue. Cyril, les temps sont durs pour les amateurs de concerts comme vous. Alors racontez-nous, même si c'est douloureux, Ticketmaster, d'où ça sort ?
2 octobre 1976, Phoenix, Arizona, Albert Leffler, un vendeur de billets de spectacle, Peter Gadois, un programmateur informatique, et l'homme d'affaires, Gordon Gunn, décident de s'associer pour lancer une nouvelle entreprise. Leur objectif ? Moderniser la vente de billets. Cette boîte, c'est Ticketmaster. Mais si ces trois-là vont créer ce futur géant, ils ne vont en fait jamais le diriger. En 1982, c'est un certain Fred Rosen qui en devient le PDG, et c'est lui qui va convaincre le trio de vendre ses parts. C'est à ce moment-là que la petite entreprise change d'envergure, grâce à son patron qui s'impose comme un des précurseurs des systèmes de billetterie aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. Fred Rosen qui va rester à son poste durant 16 ans, jusqu'en 1998, année de l'entrée en bourse de Ticketmaster.
Et l'autre année charnière, Cyril, c'est 2010.
En 2010, année de son acquisition par Live Nation, un autre géant de l'industrie du divertissement, et ce duo va devenir redoutable. Live Nation produit des spectacles que vend ensuite Ticketmaster. Et tant pis si au passage, on a comme le sentiment d'une petite situation de monopole. C'est aussi l'époque où les prix des billets de concert explosent, où la revente devient un business juteux, business dans lequel Ticketmaster se gave au passage, et l'époque où arrive le dynamic pricing, un joli mot de marketing pour dire que les prix des billets varient selon la demande, au point de faire fuir de potentiels acheteurs. Alors, comment Ticketmaster a-t-il imposé sa suprématie ? Faut-il réguler la vente de billets de concert ? Est-ce que c'est de leur faute si les concerts coûtent si cher ? Faut-il scinder Ticketmaster et Live Nation ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Aurélien Bader, aujourd'hui, Ticketmaster est devenu l'acteur incontournable du monde du spectacle ?
Oui. Oui, oui, il est incontournable parce que c'est un acteur industriel et que c'est un des rares acteurs mondiaux à s'être développé sur beaucoup de territoires avec une stratégie claire. On avait besoin aussi pour une structuration de ce métier-là qui était...
Il fallait un leader, quoi.
Ouais, il faut un leader, il faut une puissance d'investissement pour investir dans des outils. La billetterie, c'est très, 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 très générateur de capex, d'investissement. C'est très lourd pour rester aux différentes normes, innover. Donc, on a besoin de ces grosses...
Alors, on a besoin, mais est-ce que Ticketmaster n'est pas devenu aujourd'hui peut-être trop gros et on est obligé de passer par lui ? Est-ce que ça ne pose pas des problèmes pour tout le reste de tous les autres acteurs de cette économie ?
Effectivement, il y a une loi antitrust quand même qui veille à ça. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'il y a un sujet aux États-Unis. Après, sur les autres continents, il y a quand même beaucoup d'autres intermédiaires de vente de billetterie. Donc, il n'y a pas de monopole, en tout cas, sur le territoire européen. Et je ne crois pas encore aujourd'hui sur le territoire américain. Je ne cherche pas à les défendre, mais à constater la réalité.
Mais vous, par exemple, chez Fimalac Entertainment, vous êtes dépendant du Ticketmaster ? C'est simplement une sorte de prestataire ?
Oui, c'est un prestataire. En fait, on n'est pas du tout dépendant de Ticketmaster aujourd'hui. Mmh. Il n'empêche qu'ils ont un système de billetterie qui permet de commercialiser des billets. Alors, on va rentrer dans un truc un peu technique et un peu chiant, mais la commercialisation, c'est la manière dont on va avoir de dessiner une salle de spectacle avec différentes catégories et un nombre. Cette commercialisation, après, elle va s'interfacer à des distributeurs. Ticketmaster, comme la FNAC, possèdent leur logiciel de commercialisation et sont en même temps distributeurs. Donc, ils ont tout intérêt à créer un système qui est directement lié entre la plateforme de commercialisation et la plateforme de distribution. Ils construisent l'arborescence pour vendre des billets, mais ils les vendent aussi.
Voilà. Mais vous, votre intérêt ?
C'est qu'on vende des billets.
Et ça marche ?
Pour l'instant, ça marche parce qu'ils ont un très bon réseau de distribution, comme peut avoir la FNAC, un autre très bon réseau de distribution, plus plein aujourd'hui de nouveaux réseaux de distribution.
J'ai l'impression que c'est du win-win alors pour l'instant.
Un petit peu. Zim Zim
Zen, Mathieu Noël sur France Inter. Pourquoi le prix des places de concert explose-t-il ? Ticketmaster est-il devenu fou ? Le président de Fimalac Entertainment, Aurélien Binder, est avec nous pour décrypter la fameuse tarification dynamique dont on parle beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça marche, cette tarification dynamique ? C'est quoi exactement ?
C'est hyper simple, c'est l'offre, enfin c'est la demande qui fait pression sur l'offre. Donc en fait, vous avez une modulation ou une différence de tarif en fonction de la demande. Donc il ne faut pas oublier un truc dans le débat qui est important, c'est que la tarification dynamique, elle peut aussi s'exercer à la baisse, on oublie de le dire. Et si jamais il y a moins de demandes, bah, du coup la tarification peut baisser. Donc
mais on
peut
aussi acquérir. Des exemples de ça sur des grands artistes ou tous les grands artistes qui sont toujours...
Les grands artistes en général, ils jouent sold out. Donc il faut vraiment séparer le débat des artistes qui sont pénuriques de l'ensemble des autres artistes. Donc la tarification dynamique, elle peut aussi permettre à des gens qui ont moins les moyens, en sachant qu'un artiste peut être produit sur un temps long, d'acheter des billets moins chers que quand on se rapproche du concert.
Sold out, ça veut plus dire grand-chose aujourd'hui. J'ai l'impression que des places sont remises à la vente. On a vu que le concert de Beyoncé, par exemple, au Stade de France, était complet, archi-complet. Finalement, on a remis des places.
Lady Gaga, pareil.
Comment on explique ça ?
Comment on explique ça ? Alors, je pense que ça, pour le coup, c'est pas un débat de la tarification dynamique, c'est un débat de l'organisation de la pénurie. Vous organisez la pénurie, vous faites donc augmenter le prix du billet en augmentation de la pénurie.
Là, il faudrait que ça soit un peu régulé, ça, alors.
Évidemment, et chez Ecosem, nous appelons de nos voeux à ce qu'on ait une régulation, surtout entre nous, les acteurs français et privés.
Pas une régulation étatique, une régulation...
On peut pas. En fait, tout le monde pense, et on a entendu des charmants députés nous expliquer qu'il faudrait réguler ça par une loi. Mais en fait, si on régule l'offre et la demande par une loi, je sais pas où ça finit. Bon, c'est un peu curieux.
Je voyais que des Américains préféraient aujourd'hui venir assister à un concert en Europe plutôt qu'aux États-Unis. C'était le cas pour Taylor Swift l'année dernière. Pour y avoir été, il y avait vraiment que des Américains. C'était quand même assez impressionnant. Ça revient moins cher aujourd'hui de prendre le billet pour le spectacle, l'avion, le logement, que de prendre un ticket de spectacle aux États-Unis. On en est là ?
Ben oui, on en est là. En fait, on est dans une économie mondialisée. Il faut à un moment donné se dire la vérité. Il y a un grand échiquier planétaire et des artistes qui vont là où ils ont un intérêt marchand et commercial à aller. Donc si dans certains pays, vous avez une tarification dynamique non régulée et que vous pouvez avoir des billets à 30 000 dollars, ben, il sera toujours plus pratique de venir en France acheter un billet à 200 euros, plus une nuit d'hôtel à 150 euros, plus, ça fera beaucoup moins cher que d'aller le voir aux États-Unis. Ce qui est consternant écologiquement, économiquement, c'est plutôt compliqué, quoi.
Mais vous parlez donc de régulation interne entre acteurs du marché. Comment ça pourrait se mettre en place ? Parce que déjà, à l'échelle européenne, on a du mal à imaginer, mais là, il faudrait un accord avec les États-Unis. On voit bien qu'en ce moment, c'est peut-être pas,
non.
Peut-être pas l'idée.
Ça, c'est sûr. En fait, on a un truc qui est magique en France qui s'appelle, alors c'est un peu compliqué, mais on a une vraie exception culturelle française parce qu'il y a une offre publique subventionnée qui maintient les tarifs et un plafond de tarification assez bas. C'est ce qui tient aujourd'hui le spectateur. Mais pendant combien de temps ? On ne sait pas.
C'est quoi en France, s'il y a un plafond, la place la plus chère ? Qu'on peut mettre en vente.
Oh, c'est hyper dur. On sait qu'on a une énorme sensibilité au-dessus de 150 euros.
Okay.
Très sincèrement.
Il n'y a que les fans ou les artistes vraiment pénuriques, comme vous dites, qui permettent de générer ce genre d'achat.
Après, ça devient compliqué. Et après, on rentre en France dans des polémiques de les billets sont trop chers. Mais les billets sont trop chers. Nous, en tant que producteurs, on essaye de défendre aussi le fait que ce ne soit plus un concert, mais un spectacle, que les gens demandent des spectacles. Donc, c'est une autre économie. Et on n'est plus prêt à payer. C'est compliqué.
Et juste pour finir sur la tarification dynamique, qu'on comprenne bien, parce qu'on voit bien que les billets sont... On constate sur certaines places que le prix des billets explose, mais vous nous dites que grâce à la tarification dynamique aussi, on a des places moins chères qu'on aurait eues à une autre époque sans la tarification dynamique.
Oui, bien sûr, c'est la modulation du prix. Là, parce qu'il y a une polémique, on imagine que c'est que le prix vers le haut.
Mais c'est aussi à la baisse.
Eh oui, bien sûr.
Juillet 2013. Devant l'entrée principale, et probablement la seule, parce que c'est pas non plus Coachella, du festival Les Papillons de Nuit de Saint-Laurent-de-Cuve, la foule aperçoit soudain Quentin Luy, le lead singer du groupe Intérieur Nuit, qui sort des Vespasiennes. Grisé par cette reconnaissance soudaine, alors que pourtant leur clip plafonne à 76 vues sur YouTube, Quentin apostrophe la foule. Quand je dis Intérieur, vous dites Nuit, Intérieur ! Mais personne ne répondit, car tout le monde se précipita alors sur le chanteur des Kills, que la foule a aperçu derrière Quentin. Un souvenir amer.
Peut-être plutôt la chanteuse.
Un souvenir amer pour l'ex-petit prince de la pop, désormais roi du micro-trottoir, un mal pour un bien, comme on dit.
Roi du micro-trottoir.
Oui, vous êtes le roi, vous êtes mon roi en tout cas du micro-trottoir.
Oh, c'est adorable. Oui.
Quentin, c'est sur une butte bien connue de Paris.
Oui.
Vous dites pas laquelle, c'est entretenir une forme de suspense.
Je vais la dire.
Ah, ça peut être la butte aux cailles aussi.
C'est vrai.
Très bien, c'est sur une butte donc bien connue de Paris qui n'est pas la butte aux cailles que vous allez discuter. Concert et prix des
des billets.
À Montmartre, tiens alors. Alors je remonte les escaliers. Je remonte les escaliers d'une petite rue, justement derrière la butte. C'est l'heure de la sortie des cours. Il y a ces collégiens qui me tombent dessus et prennent le micro.
La babloubab, la bambou, turgura, turgura, la babloubab.
Non, c'est, mais non, c'est la musique, c'est Little Richards.
Oui, bah oui, bien sûr, je leur demande. Ils connaissent, ils connaissent. Je leur demande de me lire le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Ticketmaster,
c'est quoi ? Ticketmaster, je sais. Genre, c'est un site pour acheter des billets de concerts. J'ai déjà acheté.
Toi, t'as essayé d'acheter ?
Ouais, pour le concert de Kendrick Lamar. J'étais 11 000e sur la file d'attente. Et quand je suis arrivée, bah, y avait que les places VIP et ça coûtait 250 euros. Ça devient un peu ridicule de devoir être sur 3 écrans différents, attendre à la seconde près où les tickets sont en vente et de payer 250 euros la place pour être pas si bien placé.
Alors qu'on réfléchit sur le fait de mettre autant d'argent pour une place de concert, j'entends cette voix au loin.
Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi et mon cœur qui bat, la 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 la.
Merci. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous fabriquez là ?
Bonjour, je fais les visites de Montmartre en chanson, hein. Ticketmaster. Alors là, j'en ai aucune idée. Alors, c'est quoi la tarification dynamique ?
Eh bien, justement, on en parle et on regarde les prix de concert. On frôle parfois les 2000 euros pour certaines places. Je demande combien les gens payent pour l'avoir chanté, elle.
Moi, c'est 20 euros. Ça va ?
Sur Ticketmaster, ça va.
C'est plus accessible.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça devient plutôt, un produit de luxe. Et on perd un peu l'essence, peut-être, de la musique et de ce qu'elle communique, cette passion, et se laisser aller dans le moment.
Est-ce qu'il y a une artiste pour laquelle elle pourrait lâcher un bon billet ?
Moi, j'aime Céline Dion, évidemment, au niveau...
Vous l'avez jamais vue ?
J'ai jamais vu Céline Dion, non, malheureusement. Je préfère les petites salles où vraiment on va être proche de l'artiste, les musiciens, le chanteur...
Vive Céline en tout cas.
Vive Céline, toujours, évidemment.
Et merci à Anne-Sophie qui chante dans les rues de Montmartre. J'ai pris des places pour vous, Manon, pour pouvoir aller vous balader dans ce Montmartre en chanson. Françoise.
On ira ensemble.
Oui, Françoise est dans ses pensées. Au moment où je m'assois sur un banc à côté d'elle, que fait-elle ?
Je prends un peu l'air et je m'apprête à bouquiner.
À son tour de découvrir le mot qui nous intéresse aujourd'hui.
Ticketmaster. C'est un site internet, je ne connais pas.
Qui permet d'avoir des billets de concert.
Ah, plus il y a de fans qui veulent voir Beyoncé ou Taylor Swift, à un moment donné, plus les prix grimpent automatiquement. Bah oui, c'est l'arnaque du siècle, en musique. Bon, après, on est fan ou on n'est pas fan, non, ah, ça part de là.
Elle peut comprendre que certains mettent des sommes parfois énormes, si c'est leur truc, et elle peut vraiment comprendre ça. Je lui demande à elle son dernier concert.
C'était Alban La Simone.
Bah sur France Inter, on adore.
Ah bah tant mieux, moi
aussi. Ah bah,
aussi.
France Inter compatible. Alors que je continue de marcher, il y a ce groupe d'amis qui comprend que je parle des concerts. Ils poussent littéralement l'une des leurs vers mon micro.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Armel.
Bon, Armel, vos copains, ils vous ont balancé ?
Oui. Ils m'ont balancé. Je suis une fan de concert et j'assume.
Que pense la fan de concert de...
Ticketmaster.
De quoi on parle ?
D'une plateforme pour acheter des billets, qui est un petit peu compliquée quand il y a beaucoup de gens qui veulent aller sur un même concert.
Donc vous la pratiquez, la plateforme ?
Oui. Alors, j'ai un peu envie de dire malheureusement, parfois. Donc ça m'arrive d'aller devant les salles de concert avec une pancarte. D'ailleurs, je l'ai dans mon sac, où il y a noté à la recherche d'une invitation.
Et ça marche ?
Et ça marche, souvent. Ça a marché pour Taylor Swift et ça a marché pour Dua Lipa.
Ouais, finalement, le système Ticketmaster donne aussi ce genre de résultat. Le fan essaye et parfois ça paye. Dernière question, pour qui Armel a déjà un peu cassé sa tirelire ?
Pour Zao de Sagazan et pour Suzanne. J'ai pas fait les comptes et je préfère pas les faire parce qu'on compte les places de concert, mais on compte aussi le transport, le logement, etc. Ça peut monter très vite.
Armel, on se fait un petit bout de couplet de Zao ?
Oh là là.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages pour trouver la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs.
Bravo.
Merci beaucoup.
Bon, elle est très sympa, Armel, mais quelques concerts en plus de Zao pour trouver la justesse. Alors,
Quel ordre, on est vraiment le pire d'entre nous, Quentin. C'est vraiment.
Arrêtez, c'est drôle. C'est
mais
mignon.
Il se prend pour Vincent Dolerme. Ah, bah,
depuis que je l'ai rencontré. Alors, oui, certains concerts coûtent un SMIC, mais tant qu'il y aura des fans pour rafraîchir frénétiquement une page à 10h du mat, Ticketmaster pourra continuer à faire sa loi et à faire grimper la note.
Aurélien Binder, il y a une question que je me pose en écoutant notamment la dernière réaction, le fait qu'on puisse scroller, enfin rafraîchir une page frénétiquement à 10h du matin pour essayer d'avoir sa place. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension ludique dans Ticketmaster et la manière dont on achète des tickets aujourd'hui? Ça devient tellement compliqué, tellement difficile, il faut être tellement au taquet, c'est ceux qui vont être le plus au taquet devant leur écran qui vont peut-être avoir la chance de payer très cher pour voir un concert. Est-ce qu'on n'est pas dans la gamification? On a fait une émission sur la gamification. Est-ce que c'est pas ça ce qui fait que Ticketmaster fonctionne et qu'ils vendent beaucoup?
Non mais ça pareil, c'est pas forcément Ticketmaster. Aparté a le même système. La seule chose, c'est qu'on vient rechercher, les distributeurs viennent rechercher la frénésie. Il faut que ce soit un achat frénétique, il faut c'est que ça devienne une obsession. Et la construction de cette obsession qui amène à avoir une tarification dynamique. Sur la page d'attente, ce qu'il faut réussir à faire, et là pour le coup on peut, je pense, réussir à se réglementer ou s'auto-réglementer. Mmh. Quand vous êtes dans une file d'attente, il faudrait que vous ayez, certes, quand vous êtes, comme le disait la jeune fille, je suis 11 millième sur la file d'attente, il faut que je sache constamment le prix de mon billet. Je suis 11 millième, mon billet coûte 100 euros.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ?
Aujourd'hui, vous ne savez pas quel billet et quel tarif vous allez pouvoir avoir à la fin de la file d'attente. Et ça, c'est pénible, parce qu'effectivement, on a l'impression et on donne l'impression de se faire avoir en ayant attendu X heures et donc acheté le billet trois fois plus cher. Et donc, on est devant l'acte d'achat, on est un peu obligé de l'acheter.
Est-ce qu'il y a une différence aussi entre les petites salles et les grandes salles? J'ai l'impression qu'il y a vraiment une attente et quelque chose qui se passe quand des artistes viennent faire un Stade de France ou un Accor Arena, etc. Et moins sur des petites salles où peut-être on retrouve un peu plus aussi des places pas très chères.
Enfin, demain, vous mettez les Stones ou vous mettez les plus grands artistes à la boule noire où vous allez avoir exactement la même frénésie, même encore plus, je pense, parce que tout le monde saura qu'il y a un nombre encore plus limité, donc il y aura une préciosité qui va être mise en avant. Nous, on a intérêt à vraiment se réconcilier avec le spectateur. Le spectateur doit aussi comprendre qu'on est dans une économie mondialisée et que les stars américaines viennent une fois par an, même une fois, quand je dis par an, c'est une fois tous les 2-3 ans pour Springsteen, et que c'est un bien précieux. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut abuser sur les tarifs? Je ne crois pas. En revanche, il faut considérer que ce qui est rare et cher, c'est la base de l'économie de marché et de l'offre et la demande.
En attendant, ces collégiens, et c'est eux qui parlaient de la 11e mille places, c'est peut-être aussi toute une génération qui va se démotiver à aller au concert. Est-ce qu'on va perdre le réflexe live avec tout ça?
Je ne crois pas, j'espère pas, et vous avez raison d'indiquer que ça peut être le risque. Je pense que c'est une histoire de cycle. Le billet devient une bulle un peu spéculative. Mmh. Et cette bulle, à un moment donné, je ne veux pas dire que c'est comme l'immobilier parisien qui n'a jamais explosé, mais ça va se réguler, ça va s'autoréguler. On va atteindre des sommets. C'est fait pour être diffusé. Le live a une exception. C'est un bien qui n'est pas duplicable. Donc il faut qu'on retrouve quelque chose de plus aéré, de plus humain. Il va falloir qu'on arrive à des abus pour redevenir un petit peu plus humain, je pense.
Il a longtemps mis son veto contre ce sujet sur la tarification dynamique des places de concert, un sujet qui le renvoie à ce que Madame Lacarrière appelle le concert de la honte ou ta dernière connerie avant le divorce. Cet aller-retour à Vegas sur 3 jours fin 2023 pour voir U2 à la Sphère, qu'il avait obligé de siphonner le livret épargne intitulé « Pour les études des mioches ».
Oh non.
Ouais, la seule école valable, c'est celle de la vie, avait tenté Cyril lorsque sa femme avait menacé de le foutre dehors. L'argument, on le sait, n'avait pas pris. Cette fois-ci, il a eu sa bonne claque cette fois-ci. Pour penser un peu les blessures de tous les fans de concerts qui souffrent avec la tarification dynamique, voici un Zoom Zoom Test Feel Good dédié aux anecdotes les plus dingues des concerts les plus fous. Un quiz qui démarre dans ce pays que Cyril se refuse à visiter tant que, je cite, ils n'auront pas nettoyé les favelas. Bem-vindo à Brasil. Nous sommes sur la légendaire plage de Copacabana, là où le 3 mai dernier, Lady Gaga a réuni 2 millions de personnes, soit 80 fois la population d'Alençon. C'est beaucoup. Mais c'est toujours moins qu'un autre concert qui a eu lieu sur cette même plage et qui avait rassemblé 140 Alençon. Ce concert de tous les records, c'est celui des Rolling Stones en 2006, de Madonna en 2024 ou de Rod Stewart en 1994.
C'est...
J'aime bien l'entrain avec laquelle...
Je sais pas, je sens qu'il y a un piège.
Pourquoi?
Sinon j'aurais dit Madonna à la base, mais je vais dire c'est...
Moi je vais dire à Madonna, pourquoi Rod Stewart? Mais...
Pourquoi il aurait mis Rod Stewart? Voilà.
Pourquoi j'aurais mis Rod? Oh, c'est finement analysé. C'est une bonne réponse de Manon Mariani, effectivement.
Ah, ok, bon, elle a regardé le document.
Vous voyez qui est Rod Stewart à peu près, hein, le gars qui a fait deux fois plus que Lady Gaga quand même. Allez, on allume l'autoradio de la Ford Fiesta du beau-père de Cyril, celle qui roulait en marche arrière pour remettre des kilomètres au compteur. C'est là-dessus que j'ai rabattu la banquette pour la première fois. Emoji clin d'œil, hashtag Sandrine Pitou, hashtag Summer of Love, sacré Cyril. Mais quittons la chaleur.
Il n'y avait pas de hashtag à l'époque.
Quittons la chaleur de Copacabana pour un autre concert tout aussi mythique, quoique d'un genre très différent. Non, nous ne sommes pas aux 40 ans d'Harold Barbet dans un hangar désaffecté de la banlieue de Caen. Invitation que je n'avais hélas pas pu honorer malgré mon amour pour le hard metal et la bière tiède. Non, nous sommes à un concert du groupe Metallica. Habitués à se produire devant des foules importantes puisqu'ils ont déjà fait 65 à Alençon, à Moscou en 91, les voilà ce jour-là devant seulement 120 personnes, soit l'équivalent d'une cousinade de Quentin Luy. Alors d'après vous, pourquoi ce concert de Metallica est-il si mémorable et unique? Parce que il ne produisait aucun décibel, il était diffusé dans les casques des spectateurs. Ou parce qu'il a eu lieu au Pôle Sud, ce qui est assez rare, ou c'était le premier concert diffusé en streaming depuis un sous-marin nucléaire.
C'est
Vous n'avez pas hésité, Quentin. Et c'est là qu'on voit que vous êtes un peu la mémoire du hard rock.
J'irais A.
Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse.
B, du coup.
Bah, ça va, les trois.
Non, c'est dommage. Non, c'est pas de bonne réponse. C'est les réponses A et B. Le 8 décembre 2013, une date importante dans la vie d'Harold Barbet, alors employé des pompes funèbres de l'Orne, qui, après avoir revendu les bijoux qu'il prélevait discrètement sur les macabées qui passaient entre ses mains, avait réussi à se payer un voyage au pôle sud, non pas pour voir les manchots, il s'en fout, mais pour voir Metallica se produire sous un dôme de plastique au milieu d'une base scientifique. Afin de ne pas perturber l'écosystème, le son avait été diffusé dans les casques des 120 chanceux qui avaient fait le déplacement. Le sentiment de se faire un peu couillonner était supérieur à celui d'assister à un moment historique, conclura Harold en butant un manchot pour se passer les nerfs. Justement, maltraitance animale toujours.
Ça fait ce bruit-là. Ça va pas.
Un manchot fait ce bruit-là. Et effectivement, un manchot fait le même bruit que la voiture, que la Ford Fiesta de Cyril quand il est en marche arrière pour remettre des kilomètres. Exactement. C'est un vrai manchot qui. Mais c'est vrai que quand je l'entends comme ça. Parce que moi, j'avais la vidéo sur Internet, c'est vrai que là, c'est vrai que ça fait voiture.
Mignon.
Mais c'est vrai. Et voilà, évidemment que
j'adore
c'est mignon,
les
manchots. Maltraitance animale toujours, que nos auditeurs membres de l'assaut L214 se bouchent les oreilles, car je vous présente le cauchemar de Alain Bougrain-Dubourg, Alice Cooper. Légende de la scène métal, Alice Cooper, c'est muse qui aurait eu des couilles, dira Harold Barbet. Réputée pour ses mises en scène gothiques incluant sabre, guillotine et chaise électrique, le mythe Alice Cooper s'est forgé en une seule soirée.
C'est muse peut-être, non?
Oui, muse, qu'est-ce que j'ai dit?
Muse.
J'ai dit muse, c'est vrai, ça fait longtemps.
Soyons précis,
ça fait longtemps que je n'ai pas vu en concert. Et je vous remercie, Quentin, de m'avoir remis sur le juste chemin. Et je vous remercie en vous offrant deux points de pénalité.
Ah, très bien. Exactement. Vous étiez pas Wellfest ce week-end?
Non, j'y étais pas, j'ai laissé Harold tout seul. Alice Cooper s'est forgé son mythe en une soirée à l'occasion d'un concert à Toronto en 1969, découvrant un poulet sur scène, ne me demandez pas ce qu'il faisait là, ça on sait pas. Alice Cooper a eu l'inspiration qui allait faire de lui un mythe de la scène métal.
Un poulet vivant, qu'a-t-il fait d'après vous de ce poulet?
Ignorant que les poulets ne volent pas, il va le jeter en l'air et la pauvre bête finira démembrée vivante par le public. Il arrache la tête du poulet et boit son sang, ou il décapite le poulet avec la corde de sa Fender.
B.
Ah, j'avais le truc que
vous l'avez dit deux fois, vous êtes sûr de vous?
Moi, je dirais A.
Non, mais je suis sûr que c'est un truc.
Il a lancé le
poulet. Et les gens sont devenus fous, quoi.
C'est une excellente réponse, quand vous êtes toujours à moins 2, mais enfin moins 1.
Pourquoi?
Bienvenue en 69 à Toronto. Réponse à l'ami Harold qui nous bassine toujours que les métallos ils sont sympas, que le Hellfest c'est la bonne ambiance. Oui, bah si t'es un poulet qui vole pas. Alice Cooper ayant visiblement opté pour un poulet incapable de déployer ses ailes, le malheureux est retombé.
Les effets sonores en ce
moment sont incroyables, c'est Chicken Run. Le malheureux est retombé dans la fosse où le public l'a littéralement mis en pièces. Alors la légende a couru pendant de nombreuses années que le chanteur avait arraché la tête et bu le sang du poulet, c'était donc faux. Même si en vrai, ça ne s'est pas fini beaucoup mieux pour le pauvre poulet. En tout cas, pas du tout la même vibe que les fans de Pink qui eux ont lancé sur scène à l'occasion d'une série de concerts à Londres en 2023. Quoi donc? De la brusquetta cramée. une meule de bris de mots ou les cendres d'un défunt.
B. Non, je l'avais entendu.
Je l'ai lu moi.
Bah oui, mais je te dis c'est C.
Ah oui, vous l'avez lu, mais si vous l'avez lu tous les deux, vous pourriez
pas. B, C.
Oui. Une nouvelle preuve que notre monde devient fou.
Non, rien.
Jadis, le truc le plus dingue qu'on balançait sur scène, c'était un string comme Madonna à Bercy en 92, voire une culotte gainante comme Régine lors de son dernier gala à Ponto Combo. Mais en 2023, les fans de Pink sont allés plus loin, puisque sur cette tournée, elle a donc hérité d'un bris de mots et d'un étrange petit pochon. Pink le ramasse. C'est quoi? Demande-t-elle à la foule. C'est ma maman, lui répond un fan, les larmes aux yeux. Victoire de l'amour et de Manon Mariani. Vous êtes sûr que c'est
Manon?
Très bien.
Oui, écoutez,
très bien.
Je suis moi-même étonnée.
Un bon concert de muses. Avec les sons.
Corps de muse. Comment se fait-il que voir M. Pokora au Zénith en 2025 coûte 500 fois plus cher que voir Freddie Mercury à Wembley en 86, alors que franchement, merde.
Dites-lui que je suis comme elle.
Toujours bon de se réécouter un petit M. Pokora à 16h42.
C'est pas possible.
On zoome aujourd'hui sur le nerf de la guerre des prix des places de concert, la tarification dynamique. Le président de Fimalac Entertainment, Aurélien Binder, est toujours avec nous. Il est temps de parler des artistes. Pour qu'on comprenne, les artistes, on va parler des grandes stars mondiales. Est-ce que c'est elles qui définissent les prix des places de leur concert ou pas du tout?
Elles le font potentiellement indirectement quand elles demandent à être dérisqué financièrement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment donné une demande financière qui va impacter irrémédiablement le prix du spectacle. Voilà.
Et ce que vous nous disiez, c'est qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui sont tellement demandés que, quelque part, les Ticketmaster et consorts sont obligés de leur proposer un tarif minimal, finalement, pour une tournée.
Alors, pas tant Ticketmaster, là, on parle de Ticketmaster parce qu'il y a Live Nation, ouais. Donc Live Nation, c'est aussi Ticketmaster, ouais. Et qu'il y a une offre groupée sur le ticketing, le marketing du ticketing et aussi le marketing de la production. Mais je sais que le thème est très centré sur Ticketmaster, mais c'est une pratique qui va hélas se généraliser.
Je lisais que la tarification dynamique empêchait la revente de billets. Mais pour quelle raison?
Ah, pas du tout.
On est d'accord, ça va dans l'autre sens.
En fait, ça ne va pas tant dans l'autre chose. D'abord, vous avez le premier marché, donc le premier acheteur, c'est le premier marché. C'est une vente entre, on va prendre Ticketmaster, mais pareil pour les autres distributeurs. Une fois que vous êtes le primo acheteur de cette place, vous êtes dans le premier marché. Après, vous pensez avoir la liberté de pouvoir revendre ce billet. Là, on est sur le deuxième marché, tant que les plateformes ne sont pas cooptées par un producteur de spectacle. Et donc là, les prix peuvent complètement délirer. C'est pourquoi on a le problème avec les bots, c'est pourquoi on a le problème avec toute cette économie du deuxième marché qui est non régulée. L'économie du deuxième marché est une économie légale au niveau anglo-saxon et pas en France.
Mais est-ce qu'un artiste peut aujourd'hui dire « c'est n'importe quoi, je veux pas que des billets pour mon show soient mis en vente à plus de 500$ par exemple » et il peut décréter ça.
Bien sûr. Et en France, heureusement, on arrive à avoir ce dialogue éclairé avec beaucoup d'artistes qui comprennent qu'à un moment donné, ils gèrent une communauté qui, directement avec les réseaux sociaux, viennent se venger auprès de l'artiste directement. Donc il y a une grande sensibilité au tarif. Oui.
Quentin. Peut-être un tarif universel, je sais pas, une place. Non, ça je vous
vois. Ah, vous avez tiqué là.
Non, mais c'est vrai. Bah, pardon, on pourrait se poser la question. Un concert, ça pourrait, au Stade de France, ça pourrait être 60€, par exemple, et que ça dépasse pas, qu'importe l'artiste.
Mais il faudrait donc comparer. Il faudrait comparer des choses comparables. Ça voudrait dire que dans 60€ multipliés par 80 000 places du Stade de France, on viendrait dire que c'est rigoureusement la même économie sur chaque spectacle. Parce qu'en fait, on parle de ça. Mmh. 60€ multipliés par 80 000 places, vous obtenez un bordereau de prix. Il faut payer les taxes, il faut payer le distributeur, il faut payer tout le monde, l'artiste, les musiciens. Blablabla. Ce qui reste, c'est une économie qui permet de financer de la production. C'est-à-dire que si on encadre le prix du billet, on encadre aussi la manière dont on produit les artistes.
Pardon, mais sur un concert, combien, c'est quoi les proportions? Combien va à l'artiste, à la star? Combien va au musicien? Combien va à la production? Combien va au distributeur?
C'est une question, hélas, j'aurais adoré vous apporter une vraie réponse, mais en fait, il y a tellement de cas que c'est extrêmement compliqué de rentrer dans le détail parce que ça va être un trop gros trait. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous déduisez toujours les taxes, et puis après, vous allez payer tous les, entre guillemets, ayants droit, que sont l'artiste, les musiciens, la production, amortir les investissements aussi. Ce qui est sûr, le chiffre que je peux vous donner est vrai puisque c'est notre syndicat qui l'a fait paraître, c'est pas nous, c'est Ernst & Young. Notre métier travaille avec des marges à moins de 1%. Donc quand on fait le procès de la production de spectacle, on oublie que derrière, cette économie de la production de spectacle va mal, même si d'apparence, beaucoup de gens vont dans les salles de spectacle, les salles de spectacle sont de mieux en mieux remplies. Notre problème est un problème structurel de la production de spectacle.
Le gouvernement britannique et la Commission européenne se sont saisis du dossier après le fiasco des ventes du concert d'Oasis, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que les méthodes de Ticketmaster doivent être interdites en Europe? Ticketmaster et concert, hein, j'entends bien.
Mais donc, on réinsiste sur est-ce que la loi de l'offre et la demande doit être interdite en France? Il ne m'appartient pas de l'arbitrer, il appartient au peuple français d'arbitrer ça. On est quand même en démocratie. On a fait le choix de l'économie de marché quand on achète un billet de train, d'hôtel, le gaz, tout ça. Aujourd'hui, on
ne regarde plus. Il y a du tarif régulé, du gaz et de l'électricité.
Il y a du tarif régulé, mais vous avez aussi des offres. Vous pouvez le caper, mais je pense que l'économie de l'offre et la demande, aujourd'hui, s'est insérée dans notre quotidien d'une manière très insidieuse. Donc aujourd'hui, dire qu'un billet ne pourrait pas être sous l'offre et la demande, c'est un peu cruel. En revanche, il nous faut des plafonds. Il faut qu'on raisonne.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Manon, aujourd'hui, pas une personne à suivre, mais une application à essayer.
Oui, je vous présente Dice. C'est une plateforme britannique qui a pour objectif de révolutionner la façon dont on achète ses billets de concert. Elle a été créée à Londres en 2014 et elle est née d'un ras-le-bol entre eux. On en a parlé, les prix gonflés, les frais de dernière minute, les reventes abusives et les sites pas très clairs. Acheter un billet pour un concert, bah, c'est devenu un petit sport d'endurance. Dice propose une autre façon de faire. Déjà, plus qu'un simple site internet, c'est surtout une plateforme. On peut suivre des artistes que l'on aime bien pour avoir des updates de leur événement. Et puis surtout, les prix sont affichés clairement dès le début, sans frais surprise au moment de payer. Les billets sont nominatifs, stockés dans l'application et impossibles à revendre sur d'autres plateformes. En cas d'imprévu, on peut le remettre en vente via une liste d'attente intégrée et c'est un autre fan qui en profite sans surcoût et via Dice. Un système qui a été pensé pour que les artistes soient vus par leurs vrais fans et pas que les billets soient achetés par des bots. Et ça fonctionne à Londres. Dès les débuts de la plateforme, des artistes comme Jack White, Little Dragon ou Sébastien Tellier ont choisi Dice pour leurs concerts. Plus récemment, la plateforme a noué des partenariats avec des artistes comme iSpice qui profitent de l'appli pour proposer des showcases ou des tickets en avant-première à leur communauté. Et puis Dice recommande aussi des concerts selon vos goûts, vos réservations passées ou même vos écoutes Spotify. Elle vous aide à sortir, à explorer des nouveaux sons, à découvrir aussi les scènes locales. À Paris, par exemple, elle est déjà adoptée par des lieux comme la Machine du Moulin Rouge, le Hasard Ludique ou le Trabendo. Et elle est aussi présente dans le reste du monde, Londres, Berlin, New York, Barcelone, Milan. C'est aussi pratique pour ceux qui cherchent des événements un peu plus intimistes. C'est vrai qu'on en parle moins, mais des DJ sets, des petits concerts dans des lieux alternatifs, des soirées queer, des événements spontanés, souvent annoncés en exclusivité. C'est un mix en fait entre une plateforme de vente, de musique et d'événements. Et franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil.
Merci beaucoup Manon, je vais voir s'il reste des places pour Muse.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Le monde du culturisme n'avait pas vu une telle évolution physique depuis Olivier Mille. Même Arnold Schwarzenegger serait dernièrement passé au cornichon, spécialement pour féliciter Pierre Courade, passé en une saison de gringalet filiforme à monstre de muscles, tout en pec, le t-shirt Uniqlo retroussé aux manches, prêt à exploser à chaque tension de ses triceps. Je bande vient de commenter GC sous le live YouTube de l'émission. Bref, Pierre Courade, bravo pour tout ce que, pour tout ce travail fourni à la salle. On aurait aimé que vous soyez aussi assidu dans votre travail ici, mais j'imagine qu'on ne peut pas tout avoir. Alors, la tarification dynamique, résumez-nous tout ça en une minute chrono.
Vous êtes gonflé, Mathieu. Hein. Pas autant que mes muscles, hein, mais autant que les prix des places pour assister à un concert aujourd'hui. En cause, la tarification dynamique. Plus il y a de demandes, plus les prix augmentent et ce, en temps réel. Astuce commerciale pratiquée par Ticketmaster, le leader mondial de la vente de billets, affilié au géant des spectacles Live Nation. Un système un peu roublard, hein, mis en place par Quentin Lui, évidemment, mais dont l'effet n'a pas pu être calculé, étant donné que la demande pour assister à un show d'intérieur nuit n'a jamais été exponentielle. Pire, on a assisté à une baisse des prix de vente des billets, car le système qui permet de se faire pas mal de moula permet aussi de vendre des billets moins chers en cas de faible demande. Ce sont les pays anglo-saxons qui sont en pointe dans ce système, si bien que pour un Américain, il revient aujourd'hui moins cher de payer un billet d'avion et un séjour à Paris en plus de son ticket de concert de Taylor Swift pour aller voir son idole plutôt que de rester aux États-Unis. C'est le président de Fimalac Entertainment, hein, Aurélien Binder, qui est venu nous expliquer tout cela. Il estime que Ticketmaster mérite au moins de vendre des billets. Néanmoins, il est assez critique vis-à-vis de la pratique de la tarification dynamique alliée au système de file d'attente. Faudra-t-il réguler le système avant que la bulle des billets de concert n'éclate? C'est la question à 3 milliards de dollars, l'équivalent du chiffre d'affaires de Ticketmaster l'an dernier.
Oh!
Petite info
en plus de Pierre Courade.
C'est pas la valorisation de Ticketmaster et la musique,
c'est son chiffre d'affaires.
Attention, Cyril, c'est la guerre des titans. Marine Leonardi, vous avez une annonce à nous faire, je crois.
Eh bien, c'est vrai que ce thème d'émission est l'occasion pour moi de redire que je suis allée au concert de Billie Eilish il y a deux semaines. Est-ce qu'il y a un lien avec le sujet? absolument pas. Oui, je sais, Cyril, tu es allé au concert de Beyoncé, toujours à se la ramener celui-là. C'est insupportable. après le concert, je suis jalouse. Après le concert, j'ai eu les oreilles qui ont sifflé pendant une semaine, tellement je suis vieille. Et en même temps, avec toutes les horreurs que dit Cyril Lacarrière toute la journée sur moi, elles sont habituées. Avant de rejoindre l'équipe, mes oreilles étaient normales. Hein. C'est pas pour rien qu'elles sont décollées aujourd'hui. Hein. C'est pas pour capter la Wi-Fi. Pendant le concert, à un moment donné, il a fallu faire un pogo. Eh bien, sachez que mon périnée n'a pas tenu. Ah oui ? Et pas le trou auquel vous pensez. Horrible. Bien sûr, monsieur. Vivement le concert de Laurent Voulzy. Je vous le dis, on y va la semaine prochaine avec Pierre Courade. On va se régaler. Mais je vous le dis, ça nous fera des vacances. Hein. Je peux te dire que le prix n'était pas à la hausse. Pour deux places achetées, on avait 10% chez Rock Éclair. tout le monde est ému.
Ah, fan de vieux, ça a bien marché. Ça a bien marché.
Tu parles beaucoup à Pierre, évidemment. Tout le monde est ému avec cette histoire de prix dynamique sur Ticketmaster, mais je comprends pas, c'est pas déjà le concept de la SNCF. Non, mais pardon, mais 190 euros par personne pour aller à Bordeaux un 11 juillet, c'est des vrais tarifs. Hein. On avait prévu de se faire un week-end en amour avec mon mari, j'ai envie de te dire qu'on fera l'amour à Noël. moi, si je dépense deux fois 190 euros pour un orgasme, il faut qu'il soit donné par un professionnel, c'est ça que je vous explique. Alors, plus on bougeait la souris de l'ordi, plus on s'en éloignait de l'orgasme. Tu me diras, comme dans la vraie vie, quand mon mari touche un truc. Le truc en question étant mon Maine Coon. Pour qui je me prends, putain, on dirait plutôt un sphinx albinos, le bordel. J'ai fait l'épilation laser, il y a 10 ans. Apparemment, Ticketmaster explique que les prix dynamiques, ça permet de lutter contre la fraude. Non, mais ils sont sympas. Ils sont là. Plutôt que de vous faire ken par un inconnu dans la rue, faites-vous ken en ligne. On vous filera un reçu. C'est pas pour ça qu'ils appellent ça des queues virtuelles. Hein. Je peux te dire que tu la sens passer. J'ai regardé quand même si mon spectacle était vendu sur Ticketmaster. On sait jamais avant de les critiquer. Non, parce que s'ils ont le bon goût de vendre la place 120 balles, je peux te dire que la chronique aurait pris une autre tournure. Et je suis tombée sur cette image, c'est véridique. Hein. Il y a même écrit le petit Leonardi en haut. Erreur 404. Voilà. C'est écrit qu'il faut carrément change your Wi-Fi au cellular network. Donc, autant te dire que Ticketmaster me respecte autant que la SNCF. Change your Wi-Fi. Il faut carrément changer d'opérateur pour acheter une place pour Leonardi. On dirait que la plateforme est tenue par un de mes ex. On est loin quand même des 30 000 dollars le billet pour Taylor Swift. Et en même temps, quand tu vois son public à KGC. Tu te dis qu'il y a un pigeon qui se lève tous les matins, le jeu c'est juste de l'attraper. Je sais, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chroniqueur de jeudi. Non, je précise parce que Cyril, il a toujours peur qu'on ne remette pas les chroniqueurs alors que lui, il a 562 followers sur Instagram, hein, dont des anciens chroniqueurs qui ont 103 ans aujourd'hui. On salue Old Laf.
Oh non !
Aurel San refuse en France, lui, les prix dynamiques, c'est beau. C'est beau. Après, bon, j'ai vu les fans d'Aurel San, mon mec et tous ses potes en font partie. Je peux te dire que c'est pas un positionnement de conviction, c'est parce qu'il connaît son public. Hein. Non mais les mecs, ils débarquent à 8 au concert dans un Kia Picanto, hein, ça boit de la vodka de casse dans des bouteilles de cristalline avec des sandwichs faits par leur femme. Pas moi, hein, mes sandwichs sont vraiment dégueulasses, ils seront confisqués par les vigiles à l'entrée. Non mais franchement, si je surprends mon mari sur l'ordi au milieu de la nuit en train de s'actualiser là sur un site, je préfère encore qu'il mette un film de boule. Ça coûte moins cher et au moins je dormirai mieux. Moi en tout cas, c'est pas prêt de m'arriver les prix dynamiques sur mon spectacle. Le Mathieu Noël, je lui ai filé deux invitations au premier rang de mon spectacle il y a une semaine. Oui, premier rang, rapport à sa cataracte. Hein. Oh, sinon, il voit rien, il comprend pas tout. Et il m'a annulé le jour même parce que la babysitter a un empêchement. Voilà, alors je rappelle, hein, pour vous qui ne savez peut-être pas,
non, que l'horaire était trop tôt, c'est pour ça.
Oui, bien sûr. Mon spectacle porte sur la charge mentale. Le mec a oublié de booker la babysitter. Non, mais c'est à ce point qu'on me respecte dans l'équipe. J'ai essayé de refourguer les places à Cyril qui m'a répondu plutôt crevé. Comme quoi l'amitié, c'est comme les prix dynamiques. Hein. Parfois, prendre un peu de distance, ça évite qu'on te la mette à l'envers.
Merci Marine Leonardi, même si j'embrasse évidemment Old Laf qui nous écoute tous les après-midi, c'est un ami. Merci beaucoup Aurélien Binder d'avoir été avec nous. Vous êtes président de Fimalac Entertainment, je le rappelle, et tout va bien au royaume de Ticketmaster, visiblement. D'après ce qu'on s'est dit, tout va bien. Zoom, zoom, zen.